franceinter.fr.
Bonjour à tous. Quelques heures après la fin de la Nuit européenne des musées, plongez dans l'avenir de ces lieux d'exposition de la culture. Il y en aurait environ 3000 de toute nature dans l'Hexagone, dont un peu plus de 1200 sont recensés par le ministère de la Culture avec le label Musée de France. La plupart d'entre eux doivent faire face à une baisse de fréquentation, au mieux à une stagnation de leur nombre de visiteurs. Les catégories socio-professionnelles les plus aisées sont 4 fois plus présentes dans les salles d'exposition, par ailleurs de moins en moins fréquentées par les jeunes. Du plus humble au plus prestigieux, les musées essayent donc de s'adapter. Et certains de leurs responsables voient dans l'utilisation des nouvelles technologies un facteur de développement. Préparer son itinéraire personnalisé tranquillement chez soi, se géolocaliser en temps réel, voyager dans le temps dans une même pièce, jouer à la balle avec François Ier, pourquoi pas, sont quelques-unes des infinies possibilités offertes par le numérique, sans compter la certitude de savoir toujours trouver les toilettes ou la sortie. Le musée 2.0, gadget ou révolution culturelle, Christine Siméon nous entraîne dans ce monde du musée numérique.
Interception, le magazine de la rédaction.
J'ai tout fait avec le, avec une carte du Louvre que j'ai trouvée en italien.
Tout à, oui, tout en comment, oui.
Pas besoin forcément de l'application pour visiter le Louvre.
Est-ce que cette application peut servir pour donner des indications?
Non, c'est ici. Ok.
C'était un petit peu difficile de me repérer.
Bonjour et bienvenue au musée du Louvre. Vous êtes actuellement au cœur du Louvre. Et plus précisément dans l'aile Sully, au niveau moins 1, sous le pavillon de l'horloge. Ce pavillon est consacré à la découverte du Louvre, de la construction du palais aux missions du musée aujourd'hui, en passant par l'histoire de ses collections. Pour vous faire découvrir cette histoire, nous vous proposons une quinzaine de stations tactiles réparties tout au long des espaces. Chaque station comporte en haut à gauche, près du titre, un numéro en braille et en noir. C'est le numéro à taper sur votre appareil mobile. Cette première station introductive présente un plan général du Louvre vers la gauche. Une coupe du pavillon de l'horloge vers la droite et une légende sur le bas du panneau.
Alors moi je suis Marina Vitali, sous-directrice de la médiation dans les salles au musée du Louvre. Et donc aujourd'hui nous sommes dans les espaces des collections permanentes du musée du Louvre pour parler de numérique et des outils qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans ce musée.
Et Laurence Castagny, sous-directrice en charge de l'édition et de la production au sein de la direction de la médiation et de la programmation culturelle. Donc en charge plutôt du numérique à l'extérieur du musée, sur le web et les applications.
Alors nous sommes où ici, Marina? Vous disiez donc dans le berceau du Louvre.
Et oui, et là nous sommes en fait dans les fossés du château médiéval du Louvre. Donc devant nous se dressent les murs de fondation. La première partie, en fait, du Louvre historique, c'est une des parties très visitées du musée.
Suivez des droits la forme du Louvre. Deux longues ailes presque parallèles rejoignent une cour. Au nord, c'est l'aile Richelieu. Au sud, c'est l'aile Denon.
Cela fait plus de 15 ans que le Louvre étudie son public sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, les visiteurs du Louvre sont russes, brésiliens, chinois, bien sûr, 6000 chaque jour. Le musée est présent sur deux réseaux sociaux chinois, en plus de ses 2 millions de fans sur Facebook et de son million de followers sur Twitter. Depuis peu, le Louvre se considère comme un lieu touristique autant que comme un musée des beaux-arts. Il a mis à disposition une nouvelle application pour se repérer ou écouter les commentaires des œuvres. Elle est notée 2,5 sur 5 par les usagers sur Android. C'est assez faible, c'est dire si la tâche est difficile.
Nos visiteurs sont en grande partie des premiers visiteurs et des visiteurs étrangers. C'est un peu la même réflexion qu'on a eue au départ pour la conception de l'application Louvre Ma Visite qu'on a lancée au mois de juillet dernier. C'était de se dire, en fait, de quoi nos visiteurs ont-ils besoin? Et en fait, on s'est très vite rendu compte que le principal problème des gens était la taille du Louvre, c'est-à-dire que les gens se perdent. Donc, il faut un outil de localisation, de géolocalisation qui vous dise où vous êtes, où est l'œuvre que vous voulez aller voir et qui vous trace le chemin pour y aller. Donc, c'est des propositions d'itinéraire et qui sont traduites à la fois en termes de minutes pour y aller et en termes de distance. Des chemins assez clairs qui indiquent les ascenseurs, les escaliers, les changements de niveau, mais aussi tous les services, soit pour la bagagerie, pour les poussettes, pour l'aide aux visiteurs, pour la restauration, les toilettes aussi. Ce que vous diront tous les agents de surveillance, c'est que la question principale des visiteurs, c'est où est la Joconde, où sont les toilettes. Donc en quelques mois, on a eu plus de 80 000 téléchargements, sachant qu'effectivement, ce qui est important de dire, c'est que cette application dont le premier but est la géolocalisation et la localisation même des personnes et des œuvres, on y a greffé la possibilité de télécharger des commentaires audio. La totalité du musée n'est pas couverte par le Wi-Fi, parce qu'on a quand même des murs très épais et beaucoup d'or et des problématiques, mais on a mis en place un système de 2000 balises Bluetooth qui permet justement de faire la jonction entre le Wi-Fi et les balises pour être repéré partout, mais des balises Wi-Fi qui vous permettent aussi de télécharger, quand vous arrivez au seuil des collections, des morceaux d'audioguide. Normalement, maintenant, vous pouvez les télécharger en quelques secondes.
Normalement, ça marche très bien, effectivement.
Vous entrez dans les collections du département des antiquités égyptiennes. Pour votre visite, vous avez le choix entre deux parcours. Au rez-de-chaussée, de la salle 1 à la salle 19, vous trouverez un parcours thématique qui vous plongera dans la civilisation égyptienne à l'époque des pharaons. Vous découvrirez ainsi comment les Égyptiens s'habillaient, ce qu'ils mangeaient, la manière dont ils construisaient leurs maisons et leurs temples, ou encore les jeux et la musique qu'ils pratiquaient. Vous irez à la rencontre de leurs dieux et pénétrerez dans le monde des morts entourés de leurs fascinants sarcophages.
Ce qui est intéressant, je trouve, dans nos métiers, c'est qu'on utilise le numérique entre guillemets comme les gens l'attendent, c'est-à-dire faire des films en 3D, des films en 8K comme le fait Laurence avec son équipe, qui sont quand même des technologies très poussées aujourd'hui. Et en même temps, le numérique, il est aussi utilisé pour créer des choses sans que les gens s'en aperçoivent. Et là, typiquement, nous sommes devant une station tactile. Alors, le musée du Louvre, en fait, depuis les années 90, est très attentif à la transmission des œuvres à destination des personnes déficientes visuelles. Donc, avait créé une galerie tactile avec la tradition du moulage par les ateliers de la Réunion des musées nationaux. Et on utilise aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, l'impression 3D des œuvres qui sont très fragiles, qu'on n'aurait jamais pu en fait mouler il y a 15 ans, nous permet en fait de donner à toucher et à voir des reproductions d'objets. Alors on a commencé à le faire dans les arts de l'islam, sur des objets en métal, des objets en céramique qui sont glacurés et qui nous ont permis en fait de recréer un objet qui soit accessible tactilement. On sait très bien aussi que les enfants apprennent avant 6 ans davantage en touchant. Du coup, c'est aussi une approche physique dans un monde qui est de plus en plus virtuel. Elle est importante aussi, je pense. C'est un équilibre, hein. Loin de moi l'idée de trouver que l'idée d'un musée virtuel est ridicule. Tout ça, c'est complémentaire. On a besoin, en fait, de complémentarité.
On se dit, ces dispositifs numériques qui sont aujourd'hui implantés dans les salles et qui permettent aux visiteurs de mieux comprendre les objets qui sont autour, il y en a une grande partie qu'il est important aussi de donner à voir aux gens avant ou après la visite. Avant parce que des parents peuvent avoir, ou des étudiants peuvent avoir envie de préparer leur visite, ou après si ce sont des thématiques qui les ont particulièrement intéressés et que finalement, au moment de la visite physique, il y avait du monde, c'était la fin, ils étaient fatigués, etc. Et donc on peut le retravailler. Donc on travaille là-dessus, sur ces adaptations de dispositifs. On a au Louvre une direction de la recherche et des collections dans laquelle il y a des spécialistes des études des publics et qui ont remarqué que dans les pratiques, il y a une population de gens qui ont des 18-24 ans, grosso modo, pour qui, alors on est d'accord ou pas d'accord, l'expérience de la visite virtuelle peut équivaloir à l'expérience d'une visite physique. Ce qu'on a remarqué, nous, dans les fréquentations du site internet, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment plus de visites sur nos pages de contenu pédagogique, historique, histoire de l'art, etc., que sur les pages pratiques d'information, lesquelles expositions, etc., etc. Donc on sait qu'il y a des visiteurs qui viennent spécifiquement sur ces pages-là. En revanche, on n'est aujourd'hui pas capable de savoir si ces visiteurs-là ont une visite physique ou pas. La direction dans laquelle on travaille, c'est dans l'élargissement des formats. Donc on travaille vers de nouveaux formats, de nouvelles écritures, des web-séries, des docu-fictions, des fictions, des dessins animés, pour proposer une approche du Louvre, d'un artiste, d'une œuvre, d'un courant artistique, pour, j'allais dire, accrocher l'intérêt des gens, puisque la finalité, c'est bien ça, c'est un jour de provoquer cette rencontre physique avec, avec le palais et avec les œuvres.
Après, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire aussi, pour garder une connexion avec des publics ou des non-publics, puisque les personnes qui ne viennent pas au musée sont aussi un public, mais sans être physiquement présent, c'est de ne pas minimiser la question de la collaboration avec les publics. C'est-à-dire, demain, dans un sens large du terme, on va refaire beaucoup de choses sur l'audio-guidage. Il ne faut pas, je pense, mettre de côté l'idée de proposer aux gens qui nous disent « Voilà, vous avez carte blanche, on fait un appel à projet. On veut faire de nouveaux parcours au Louvre, vous nous proposez des choses et vous les signez. » Ça peut être aussi intéressant de commander quelque chose à un auteur, hein, c'est pas la question. C'est aussi donner la possibilité aux gens, là on va à la rentrée faire une soirée un peu sympa autour des cartels, parce qu'on travaille énormément en fait sur la reprise du contenu des cartels au Louvre, à la fois pour les traduire dans une autre langue, mais aussi les traduire dans un vocabulaire aussi plus compréhensif pour le visiteur, ce qui n'empêche pas de garder le contenu scientifique. Hein. Donc voilà, on s'est dit qu'il faudrait faire une soirée où on enlève tous les cartels, on donne des post-it aux gens et allez-y, renommez les œuvres. Et ce soir-là, il y aura des médiateurs qui expliquera ce que c'est que cette œuvre, qui l'a faite, pourquoi son titre c'est celui-là. Les œuvres d'archéologie chez nous n'ont pas été nommées par les artistes, donc c'est un titre de convention scientifique. Mais du coup, il y a tout un dialogue qu'on peut ouvrir comme ça avec les gens.
Nous sommes à Beaugency, sur les bords de la Loire, pas très loin de Blois, une trentaine de kilomètres. Nous arrivons au château de Beaugency, où ont vécu les ducs d'Orléans au XIVe siècle. Louis XI, François Ier ou Jeanne d'Arc ont séjourné ici. Aujourd'hui, nous allons visiter la demeure de Jean de Dunois, bâtard d'Orléans et compagnon de Jeanne d'Arc.
Je m'appelle Xavier Lelevé, je suis le propriétaire du château de Beaugency. Pour essayer de travailler sur la transmission du patrimoine et être dans un rapport plus appétant à la visite, on a souhaité créer un outil de réalité augmentée qui permet de trouver un rapport un peu différent avec la visite. Voilà.
Réouvert depuis 3 ans, le château de Beaugency accueille 20 000 visiteurs par an. L'enjeu, ce serait de doubler la fréquentation. Au château, on compte en partie sur la tabulette pour y arriver. La tabulette est une tablette tactile. Elle est appelée ainsi pour faire référence à la tabula de l'Antiquité, table de cire sur laquelle on écrivait avec un stylet. Aujourd'hui, cette tablette équipée pour Beaugency, c'est beaucoup de technologie, une puissance de calcul importante, mais un objet d'une simplicité absolue pour les visiteurs. Protégé par un étui robuste, les enfants ou les adultes pilotent facilement leur visite avec elle.
Donc pour les explications, on a vu qu'il y avait la tablette.
Voilà, je vais vous montrer ça.
Voilà, alors sur la tablette, vous voyez, vous avez un viseur en forme de blason. Ouais. Et vous allez trouver dans le château, un peu partout, des blasons de ce type-là. Donc il suffit d'approcher le viseur du blason et il se passe quelque chose. Là, en l'occurrence, la tablette vous dit « Rendez-vous dans la salle des gardes ». Et puis, 3 boutons supplémentaires qui vont apparaître sur la tablette. Le premier bouton, quand il est disponible, c'est que vous avez accès à de la réalité augmentée à l'endroit où vous êtes dans le château. Par exemple, vous verrez la façon dont l'office du château a été aménagé pour accueillir François Ier en 1519. Et vous verrez donc la pièce à travers la tablette, hein, sur 360 degrés.
Des images sur la tablette montrent ce que la réalité actuelle ne peut plus montrer. L'état ancien des bâtiments, notamment. Elle permet de jouer aussi et de répondre à des questions, tout en donnant des explications et des commentaires.
Et enfin, le dernier, c'est plus pour les enfants, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient les seuls à s'amuser. Donc si vous êtes tenté, il y a un alchimiste qui va vous confier un œuf de dragon. Alors l'alchimiste, c'est Jean-Cien de Beaugency, il a existé. L'œuf de dragon, on est moins sûr qu'il existait. Et donc le but du jeu va être de réussir à faire éclore cet œuf à la fin de la visite dans le grenier. Et pour ça, il faudra remplir un certain nombre de conditions que je vous laisse découvrir.
Ah, d'accord,
vous la confiez.
Merci. Merci.
Bien. Bonne visite.
Merci beaucoup.
Merci.
En fait, dans un premier temps, effectivement, tout d'un coup, les regards se sont tournés vers Beaugency, qui était peut-être l'un des châteaux les plus inconnus de la Loire, en fait.
Où... Exactement, c'est le château mondialement inconnu. Donc, grâce à la tablette, on va réussir petit à petit à porter un regard différent. Alors, c'est ça la réflexion aujourd'hui, pour qu'on n'ait pas de désaffection et que, notamment, les jeunes publics se rendent compte de la richesse qu'il peut y avoir. Mais il faut bien trouver le support, le bon média pour pouvoir échanger avec eux. Visiter un château, ça pouvait, pour un enfant, relever un peu de la punition. Oui, super, on a un cabinet à pointe de diamant à gauche, un lit à baldaquin à droite. C'est quelque chose, dans un rapport de la visite, très français, alors qu'on est sans doute plus proche, nous, des anglo-saxons, où on va avoir plus un rapport d'aventure avec la visite, comment on peut avoir un rôle dans la visite en tant que visiteur. C'est ça qui va être intéressant. Alors là, vous avez été dans la nouvelle salle, et bien vous avez le contenu qui est apparu.
Ouais. Le vestiaire des chevaliers. Regardez autour de vous, nos chevaliers viennent de poser leurs armes et leurs affaires.
J'ai tout expliqué, c'est d'accord. Mais tu comprends, j'ai intérêt à être bonne, parce que quand Alix va venir, elle va être meilleure que moi. Alors la grand-mère, elle doit s'exercer. Et là, je sais qu'il y a un jeu où on peut faire sortir le dragon et reconstituer le vitrail, mais je ne sais plus comment on fait.
Bah oui, bah, tu fais comme moi, tu regardes.
Je regarde Mathias. Je regarde ce qu'il fait, tout ça, je vais savoir.
Ça, alors, ça, tu
explique à maman.
Tu n'es pas distrait par la technique.
Voilà, voilà, ce qu'il faut voir. Voilà ce qu'il faut voir.
Et oui, c'est ça, c'est merveilleux, il y a le dragon qui s'en va.
Donc, il faut que tu quittes.
Je quitte.
Et tu cliques sur la petite étoile qui est juste là.
D'accord.
Tu fixes le vitrail.
Je le fixe.
Une photographie, pas de monsieur.
Mais c'est
ensuite,
pas un problème.
Une fois que tu as bien fixé, tu dis « je suis prête ».
J'y vais.
Et là, je vous invite à bien observer le vitrail. Observez-le.
Attention, c'est là que ça commence.
Et là, tu vois, il y a un
vitrail. Ah ben voilà, c'est merveilleux.
Qu'est-ce qui va se passer?
Ah, regarde, il se décompose.
Il se décompose et normalement, voilà, il arrive.
Ah, ça, c'est superbe. Oh, c'est superbe, regarde.
Oui, pendant ce temps-là, tu oublies de regarder le reste.
Ah non, je regarde aussi.
Mais on
voit autre chose. On voit autre chose, mais bon, plus ce qu'il y a là, on voit ce qu'il y a sur la tablette, mais c'est bien. Bon, ben ça y est, j'ai compris. J'ai fait des progrès, hein. Voilà, à la fin de la visite, je saurai tout. Et là, ça réussit. Hein. Moi, j'ai appris que l'armure, elle n'était pas si lourde que ça. Et qu'en fait, les chevaliers qui étaient revêtus de leur armure, là, ils pouvaient faire plein de choses. Ils pouvaient bouger. Moi, je croyais qu'ils étaient complètement immobiles avec ça. Donc, vous voyez, on apprend à tous âges.
Johan Chasm est le chef de projet d'une société qui s'appelle 44 Screens et qui a conçu l'outil en réalité augmentée pour permettre aux visiteurs de découvrir l'histoire du château de Beaugency.
C'est vraiment des exemples de vie qu'on voit dans le château maintenant. Des exemples à la fois d'entraide entre plusieurs générations et puis entre visiteurs parfois. Et comme je vous disais un peu plus tôt, le fait qu'il y ait des visiteurs qui, à l'entrée, ne souhaitent pas avoir la tablette, ce dispositif numérique pour faire la visite, et puis ils voient d'autres visiteurs l'utiliser dans le château, ils reviennent à l'accueil pour dire « bon, bah, finalement, j'en veux bien une ». Donc, c'est typiquement le type de réaction que vous avez eue, c'est ce qui arrive aux visiteurs du château.
Il faut être formé.
Ouais, exactement, faites adouber.
Et adouber, absolument. Voilà.
Beaucoup d'enfants sont amusés du début jusqu'à la fin de la visite à scanner avec leur tablette de façon à obtenir le contenu muséologique.
Et les parents confient à l'enfant le fait de dire les textes pour le partager. Ça marche très très bien, ça.
Vous avez essayé la réalité augmentée, du coup, avec la
On a essayé dans la salle d'armure. Là. On est vraiment à l'époque. Avec François Ier, le selfie avec François Ier. Alors, on va se mettre en contre-jour.
Voilà. Et voilà, validé.
Très bien.
Alors, nous sommes à l'office, autant dire la cuisine, je ne sais pas.
Alors, c'est, oui, c'est, l'en, c'est entre le monde des maîtres et la cuisine. C'est un endroit qu'on appelle aussi le retour de chasse. Et là, on a la réalité augmentée. Le petit bouton bleu s'est allumé.
Alors,
allez-y.
Attention.
Alors, vous pourrez le passer, pointez votre tablette vers la cheminée. Et vous allez cliquer sur « Je suis prêt ». Tac. Vous voulez voir la chambre de François Ier, d'élégante tenture, un grand lit, un feu dans la cheminée, le tour est joué, l'office est devenu une chambre à coucher royale. Et donc, on voit que l'architecture a été modifiée. Là, on est en 1519. François Ier ne peut pas être accueilli au premier étage, qui est l'étage noble, normalement, parce que le château est trop vétuste. Et donc, on l'installe ici. Et vous aurez une galerie de photos qui va se mettre en place, puisqu'on va vous proposer de garder plusieurs traces de votre visite de cette manière-là. Là, on vous dit, si vous avez tout scanné, qu'on peut continuer maintenant. Voilà. Donc, vous avez gagné. Hein. Petit à petit, vous allez remplir vos fioles. Alors, c'est intéressant parce que le jeu pour enfants, il n'est pas séparé du parcours pour adultes. Vous pouvez scanner et vous pouvez jouer en même temps. Et il se trouve que les adultes jouent beaucoup.
Cour d'honneur. Donc là, la tabulette fait le travail toute seule. Il n'y a rien à lui dire. Elle nous explique qu'en 1527, François Ier a officialisé le jeu de paume, ancêtre du tennis, comme sport professionnel.
Vous êtes dans la réalité augmentée, on voit bien le château. Hein, alors celui-là, c'est de son époque, il n'a pas changé. Là, il a fait monter une baraque pour les spectateurs.
À l'ombre.
À l'ombre.
Un petit coin d'ombre.
On a le filet qui est ici, là. Hein, le bâtiment qui est juste là, Longueville, qui a été modifié. Puis regardez à droite, là, on voit que ça, ce n'est pas du tout le même bâtiment.
Aujourd'hui, on a des arcades. On va appeler ça comme
néo-gothique.
Voilà. Alors qu'à l'époque de François Ier, la tabulette nous montre que
l'ancien bâtiment. Il
s'agissait d'un bâtiment à colombage. Voilà.
Il y a une des choses qui m'a beaucoup étonné en voyant des enfants utiliser la tabulette, parce qu'il y a un exemple que je trouvais très fort, c'est de voir des enfants qui venaient d'apprendre à lire, des enfants de 7 ans, qui étaient avec leurs parents, et qui scannaient un cartel et commençaient à lire pour leurs parents. Et ils commençaient en bas, et une heure et quart plus tard, ils venaient tout juste d'arriver au premier étage, ils étaient toujours en train de lire, donc les parents commençaient peut-être à perdre un petit peu patience, mais les enfants avait vraiment un vrai plaisir à pouvoir partager le contenu historique qui est donné par la tabulette, à pouvoir lire pour leurs parents. Et donc, attention aux parents qui viennent au château de Beaugency. Prévoyez un petit peu de temps et sachez que vos enfants vont commencer vont vraiment lire les contenus et avoir du plaisir à les lire.
Les enfants sont captifs de l'écran, en fait.
Quand il s'agit de lecture, oui, effectivement, ils sont captifs. Mais dans l'exemple que vous avez vu tout à l'heure où on était proche de la Côte de Maille, ils aiment aussi absolument toucher le contenu réel, ce qui est quelque chose qui n'est pas donné à faire dans tous les endroits de culture, de pouvoir toucher vraiment et sentir le fait que c'est un poids, que ça soit lourd, mais qu'en même temps, on puisse le manipuler facilement. C'est quelque chose qui leur plaît aussi énormément. Alors en fait, tous les ingrédients nécessaires pour notre potion sont présents. Glisse-les dans le chaudron pour les confectionner. Alors vous mettez tout dans le chaudron. Ça commence à fumer.
Ça va exploser.
Regarde avec la douleur en direction des braises pour voir le résultat de tes aventures. C'est derrière vous les braises.
Ah oui. Donc là, il y a
Restez bien sur le.
Il faut
être bien sur le. Voilà.
Je ne bouge plus. Je ne respire plus. Et là, ça va me péter à la figure. Ah non, c'est un dragon. Un mini dragon. Ouais, mais... Et je suis Saint-Georges et je vais terrasser le dragon.
Exactement. Alors là, on est dans la vraie réalité augmentée, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le ludique, parce que si je mets ma main derrière, elle apparaît, vous voyez.
Oui.
Alors les enfants prennent leur dragon, on peut prendre en photo, vous avez vu que vous pouvez prendre en photo votre dragon.
Ah mais oui, je vais me prendre en photo avec le dragon, alors attendez.
Alors les gens peuvent nommer son dragon.
Ah oui, c'est mon diplôme d'alchimiste.
C'est voilà. Ça, exactement, vous avez bien gagné. Vous allez pouvoir retrouver votre diplôme, toutes les photos que vous avez prises pendant votre visite. Et on va pouvoir vous les envoyer par mail.
Je suis César Gelves et je suis doctorant à l'Université de Grenoble. J'étudie les applications mobiles en situation touristique. Donc, au niveau de ce que nous, on est en train de travailler, c'est tout l'ensemble de l'application et des sites internet, parce qu'on analyse aussi les sites internet, qui rentrent en compte dans le parcours touristique.
Qu'est-ce que vous observez d'une manière générale sur l'ensemble des offres d'applications ?
En fait, en France, on a été pionniers sur l'usage d'applications mobiles des territoires. C'est-à-dire des applications proposées par les offices de tourisme, par le comité départemental de tourisme, et lesquelles ont été véritablement des pionniers. Donc du coup, ces applications ont eu une vie assez intéressante, mais ça a demandé énormément de développement pour le territoire et d'investissement économique. Et on voit actuellement qu'il y a pas mal d'applications qui ne sont plus téléchargées. Effectivement, on se retrouve dans une période charnière entre la période de surdéveloppement d'applications mobiles, où il y a eu énormément d'applications mobiles qui ont été développées, et maintenant qu'on s'est dit, d'accord, il y a eu ces applications mobiles, qu'est-ce que ça a donné pour la visite en tant que telle, pour l'expérience utilisateur?
Et il fallait peut-être une tabulette pour que les parents parlent à leurs enfants de François 1er.
Je pense que oui. Et là, c'est le pari réussi de cette application de Bonjancy. C'est le fait de voir l'enfant qui devient guide et qui s'approprie complètement de l'histoire de cet endroit et qui non seulement visite, vit le lieu, mais en plus, il devient professeur, il devient maître le stand de la visite et propose à ses parents d'apprendre davantage.
Voilà, j'ai branché en fait l'application du Palais des Beaux-Arts de Lille dans mon smartphone et j'écoute la visite qui est proposée à travers cette application.
Et c'est dans ce contexte qu'est né le premier musée de Lille en 1795.
Bruno Girvaud, si je comprends bien, un jour nous sommes entrés dans le monde du numérique, les gens ont pris l'habitude de s'informer par eux-mêmes, de réagir, d'interagir entre eux, et là, ce fut la pagaille dans le monde des musées. Il a fallu revoir complètement en interne votre façon d'envisager le visiteur. Est-ce que je me trompe ?
On voit mal comment le musée pourrait s'abstraire de la réalité quotidienne, et c'est vrai qu'on est obligé, à l'aube du XXIe siècle, de repenser le musée en fonction des usages, donc l'omniprésence de l'écran, et surtout la relation directe, l'échange direct, c'est-à-dire toutes les paroles sont confondues. Et alors que le musée était habitué à une parole descendante, c'est-à-dire « nous savons », mais le monde ne fonctionne plus comme ça, le monde fonctionne sur de l'échange entre les gens. Et donc il a fallu, en effet, qu'on prenne cette dimension en compte. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on s'emploie depuis quelques années. Ce projet qu'on appelle donc dans notre jargon un projet scientifique et culturel, c'est-à-dire repenser toute l'idée du musée, la stratégie du musée pour les années à venir, on l'a fait sur le plan de la méthode, en consultant, en associant tous ceux qui voulaient, celles et ceux qui voulaient participer à cette refondation du musée. Et c'est même au-delà, puisque nous sommes allés sur la consultation des gens extérieurs, de catégories de public, à partir de ce qu'on appelle des focus group, par exemple, plutôt en bon français, des comités d'usagers. C'est-à-dire, voilà, on consulte des catégories de personnes sur un projet en cours d'élaboration. C'est-à-dire, non pas quand il est fini, mais quand on est au début ou à mi-chemin, on évalue avec des catégories de personnes, voilà, qui publient le projet tel qu'on l'a conçu. C'est ce qu'on a fait, puisque nous cherchons à la fois à conserver nos visiteurs. C'est vrai que le visiteur habituel, c'est quelqu'un qui a un niveau d'études supérieures assez élevé, mais néanmoins, on cherche évidemment beaucoup à élargir et à intéresser des gens qui sont intimidés, qui sont, je dirais, presque inhibés par rapport, ou qui pensent même tout simplement que le musée n'est pas fait pour eux. Et les outils numériques vont servir aux deux, en réalité. Alors, on pense que cet outil va peut-être apporter un plus à des publics non habitués au musée.
L'audio guide est-il mort ?
Non, je pense que l'audio guide n'est pas mort, pas plus que d'ailleurs, ce que nous on appelle la signalétique, c'est-à-dire le texte, hein, les cartels, les panneaux, tout ça, on va le renouveler entièrement. Là, je pense plutôt sur les contenus, la nature du discours qu'on tient, ouvrir à d'autres disciplines. Mais en revanche, je pense qu'aucun support n'est mort. On a vraiment imaginé, pensé le numérique comme toujours une valeur ajoutée, toujours quelque chose que le numérique va pouvoir apporter, que ne peut pas apporter ni le texte écrit, ni l'œuvre originale, évidemment, a fortiori, ni l'audio guide. Voilà. De même que c'est sûrement pas la mort non plus des guides conférenciers, parce que rien, aucun outil numérique ne remplacera la médiation humaine. Autant de guides conférenciers, autant de discours différents et autant une incarnation qu'on ne pourra pas trouver dans les outils numériques. Néanmoins, je pense, oui, que le musée, ça a longtemps été un lieu sacralisé, un lieu dans lequel il ne fallait pas élever la voix, dans lequel on n'était pas censé se divertir, dans lequel il ne fallait pas qu'un enfant court. Voilà, donc beaucoup d'interdits et finalement un lieu finalement réservé à une élite. Je pense que demain, le musée doit devenir un lieu familier. Pour autant, il doit rester un musée. C'est-à-dire que l'objet final, c'est quand même d'éprouver des émotions devant la beauté des œuvres d'art, apprendre des choses. Donc, le musée a toujours cette mission pédagogique. Mais ça n'exclut pas qu'on puisse se divertir à certains moments, qu'on ait des lieux dans le musée où on puisse simplement se restaurer. Voilà. Donc ça doit être les deux, lieu de vie et lieu de beauté, lieu d'apprentissage, lieu d'émotion.
On va aller se promener dans le musée, on va visiter un peu avant de rencontrer nos interlocuteurs.
Le Palais des Beaux-Arts de Lille accueille entre 200 et 300 000 visiteurs par an. En ce moment, il est en mode Open Museum. Les mots disent le souci d'ouverture à tous, surtout à ceux qui ne sont pas habitués des musées, ceux que l'on appelle les primo-visiteurs. La formule de l'Open Museum permet d'enregistrer entre 40 et 70% de nouveaux venus en invitant des personnages venus de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est un grand chef cuisinier, Alain Passard, qui a conçu une exposition avec ses propres sculptures et collages et avec celles d'autres artistes contemporains.
Alors, ce qu'on entend là, en fait, c'est l'international chanté par des cocottes minutes. C'est une œuvre de Pilar Albarracín, qui est une artiste espagnole. Ce sont des vraies cocottes minutes en aluminium, hein, comme vous pouvez les imaginer. Elle chante l'international, c'est le souffle de la révolte. Et cette œuvre a été choisie donc par Alain Passard, qui fait une proposition d'exposition ici, dans cet Open Museum de Lille, à partir de maintenant.
Je suis Anne-Françoise Lemaitre, je dirige le développement et la communication.
Vous nous décrivez un peu l'espace dans lequel nous nous trouvons.
Donc c'est un espace qu'on appelle l'Atrium, qui est un espace à la fois voué aux installations, aux œuvres contemporaines, et un lieu que nous aménageons, il est en cours, et en juin à venir, on est en train de réfléchir et de travailler sur des dispositifs numériques pour préparer sa visite. Et un second espace là, qui sera dévolu à du gigapixel. On a 5 chefs-d'œuvre qui sont numérisés en ultra haute définition. Et c'est vraiment la rencontre avec la matière et le détail, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. On ne mettra pas d'écran dans les salles, mais véritablement des espaces dévolus après et avant la visite.
Tout ceci accessible, même si on n'a pas envie d'aller visiter le musée. En fait.
D'abord, c'est de sentir le lieu et d'avoir envie d'y revenir. Et évidemment, l'étape d'après, c'est la rencontre avec la beauté.
Alors les enfants en général, que retenez-vous du musée des Beaux-Arts ?
Moi, je voulais dire qu'on avait vu des maquettes de plusieurs villes. Et je voulais dire qu'aussi qu'on a vu une pierre avec le pharaon qui écrivait, je pense que c'est sur papyrus. On a vu un tableau sur Jésus. Il y avait des gens riches qui étaient en train de... qui l'avaient invité.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est des choses comme des casseroles. Ça faisait de la musique et au-dessus, il y avait de la fumée.
Moi, ce qui me marque le plus, c'est les lumières, les grandes lumières à l'entrée.
Donc, je suis Florence Raymond. Je travaille au Palais des Beaux-Arts de Lille depuis maintenant bientôt 6 ans comme attachée de conservation du patrimoine. Et j'ai la chance d'être en charge à la fois des collections qui datent du XVIIIe siècle, hein, des plans-reliefs qui sont ces grandes maquettes souhaitées par un certain Louis XIV, et aussi de la stratégie digitale du lieu. L'idée, c'est qu'on sait que parfois le numérique isole, il y a un casque, il y a un écran, il y a un geste individuel vers un dispositif. L'objectif aussi, c'est de pouvoir partager à un moment donné un dispositif dans les espaces introductifs du musée où les groupes seront invités à s'asseoir. On pense vraiment au confort du corps pour aller vers un confort aussi de l'esprit, un rapport à la beauté augmentée.
Alors dans les parcours que vous proposez, il y a à table, le grand bleu, Histoire de bête, des chiffres et des lettres, Angers et démons, Love, etc.
Avec aussi un parti pris d'accroche contemporaine, avec des jeux de mots qui renvoient aussi à une culture dite populaire ou une culture dite savante, pour aussi faire ce lien entre une quotidienneté où l'art a sa place aussi de manière partagée et numérique. On a la chance d'être dans une région où il y a une forme de pépinière en termes de réflexion sur les sciences cognitives, la neurobiologie, le rapport au numérique de manière générale qui vient la capter finalement un système de réflexes plus ou moins conscients. Et on a eu la chance de pouvoir suivre des visiteurs volontaires équipés d'un certain nombre de dispositifs numériques qui leur permettaient de filmer leur visite. Et ensuite, il était intéressant de voir ce qu'ils avaient vu. Mais ce n'est pas suffisant, on peut regarder dans le vague un tableau. C'est là que la statistique, il faut vraiment la manipuler avec prudence et l'analyser à plusieurs, parce que ce n'est pas parce qu'on a un temps moyen de visite que ce temps a été dédié pleinement à la visite. D'où la nécessité de faire verbaliser ces visiteurs, de leur demander d'être les spectateurs de leur propre film, ensuite qu'on visionne avec eux. Et là, on leur demande de décrire, du début jusqu'à la fin, quelle a été leur visite, et quel était le lien qu'ils voulaient introduire à l'autre pendant cette visite. Parce qu'il y avait tout un jeu social, bien sûr, entre les visiteurs. Il y avait la première visite, où un couple est en train de se former.
Donc à la fin, ils se sont embrassés.
Oui, presque. Mais c'est, on pourrait croire, bon, quel est donc ce cliché, je vais l'emmener au musée, peut-être que ça va lui plaire. Mais finalement, oui. Et à nous peut-être de nous dire, bah, jouons de cela. Il y a une envie partagée. Eh bien, jouons la carte d'un parcours love. Et justement, il sera dans les tables tactiles que l'on va développer pour juin.
La galerie des... J'appelle ça comme ça, la galerie des gigapixels, en fait, dans l'atrium. Qu'est-ce qu'on voit de plus dans ce milliard de pixels sur un Bruegel? Je ne sais pas si vous le testez sur votre Bruegel. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on voit de plus?
L'objectif, là, c'est de proposer quelque chose que l'on ne voit même pas lorsqu'on a le nez collé devant la peinture. On va pouvoir discerner vraiment l'épaisseur de la toile sur laquelle l'artiste a travaillé. Dis-nous.
Alors, je pense aussi au tableau des vieilles de Goya, oui. Qui est quand même un de nos grands chefs-d'œuvre et qui est très, très souvent vu par les visiteurs. Et c'est vrai que la vision en gigapixels permet d'observer des détails, donc invisibles à l'œil nu, notamment de préparation de l'œuvre, puisque Goya a réutilisé une œuvre plus ancienne. Du coup, dans l'agrandissement, elle apparaît, et on voit notamment une ancienne crucifixion, donc on voit des éléments apparaître. Et puis, dans le travail de la pâte, Goya, c'est un artiste qui travaille avec la matière. On a vraiment l'impression d'avoir l'empreinte de l'artiste, comme s'il y avait mis ses doigts, d'ailleurs il le fait, hein, couteau à palette, les doigts pour rendre cette peinture vivante. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on pourra se servir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les guides conférenciers pourront aussi, un moment dans leur visite, après avoir présenté l'œuvre ou avant, se retrouver devant la vision en gigapixel et devoir montrer cette matérialité de l'œuvre visible du
coup.
Oui,
c'est une forme de dévoilement plus intimiste finalement.
Le Palais des Beaux-Arts est à la fois prescripteur de beauté en désignant certaines œuvres comme dignes d'intérêt et forum pour les visiteurs qui partagent leur façon de voir. Cela pourrait aller encore plus loin. Aux États-Unis, Nancy Proctor est une spécialiste du numérique. À Baltimore, elle a dirigé des expériences de collecte d'informations, de savoir et de savoir-faire. Là, ce sont les habitants qui fournissent la matière première des musées par leur connaissance sur l'histoire de leur région ou l'histoire de leur communauté. Les outils numériques sont tout désignés pour ces collectes d'informations, leurs échanges et leurs recoupements. Les habitants et ceux qui y contribuent finissent même par les administrer eux-mêmes.
C'est le musée qui va changer parce qu'ils vont reconnaître ces visiteurs comme pas seulement une vase vide qu'il faut remplir de savoir. Ils vont reconnaître ces visiteurs comme une fonte, une source de savoir, des histoires, des connexions importantes pour la collection. Je ne crois pas que les musées peuvent dire d'un jour à l'autre, bon, nous allons attirer les jeunes, ou nous allons attirer les immigrés, ou nous allons attirer les personnes qui ne viennent jamais à notre musée. Ils doivent aller dans ces communautés trouver les partenaires, les personnes déjà connues qui ont déjà un public dans ces secteurs-là, ces communautés-là, et les inviter à utiliser le musée comme une plateforme, une base de données pour raconter leur culture, les histoires qui sont intéressantes dans le voix, la langue, le style qui peut toucher ces publics. Ils sont le fond du contenu qui rend la collection, c'est-à-dire les objets, les artefacts, pertinentes, mais ils deviennent plutôt les conservateurs d'une certaine manière et les interlocuteurs pour la collection. Tout le monde dit, ah, est-ce que ça veut dire que les conservateurs n'ont plus importance, plus rôle dans le musée? Non, au contraire, c'est juste qu'il faut partager ce rôle. La communauté est aussi importante que les experts dans le dialogue sur le contenu des expos. Les gens, ils savent les choses très intéressantes et ils ont la capacité à les raconter d'une manière très intéressante. Il faut juste que nous, comme dit les gardiens des institutions de culture, nous commençons à écouter mieux et peut-être ne parler pas tout le temps nous-mêmes.
Ce tableau est l'un des plus célèbres du musée du Louvre. Le radeau de la Méduse, terminé en 1819 par le peintre français Géricault, qui avait alors 27 ans, a aussitôt déclenché une vive polémique.
On a vu comment le château de Beaugency montre plus de choses qu'il ne le peut en réalité, hein, grâce à la réalité augmentée. On a vu qu'on pouvait faire des reconstitutions des œuvres en 3D, des applications pour smartphone, bien sûr. Au Louvre, on utilise même la console Nintendo pour convaincre les enfants de venir se promener dans les galeries. Bref, dans ce prestigieux musée du Louvre, nous venons rencontrer un historien d'art, un homme plus proche du pigment que du pixel, Paul Arden.
Bonjour. Bah écoutez, moi je me définis comme historien de l'art et écrivain. Je suis aussi universitaire, mais bon, voilà, pour moi ça fait partie, enseigner la médiation, ça fait partie de la diffusion de la connaissance, donc c'est naturel.
Alors aujourd'hui, on vous dit que le Louvre a une super application à mettre dans son smartphone. On vous dit que on peut effectivement peut-être faire apparaître, grâce à une appli de réalité augmentée, à côté d'une œuvre, quelque chose en plus. Ça nous renseigne sur quoi? Tout ça, à quoi ça sert, selon vous?
Moi, je pense qu'il faut revenir aux origines, peut-être. Si on se pose la question de l'utilité de ce genre, on pourrait dire d'extension, qui sont proposées avec l'œuvre d'art elle-même. Bon, et les origines, elles sont très lointaines. L'origine, c'est la copie, tout simplement. Et en fait, les hommes ont toujours copié les choses qui les intéressaient pour permettre à d'autres personnes de les voir sans être sur place. Nos ancêtres, d'il y a un siècle, ils ont presque mieux fait que nous, puisque au lieu de nous offrir les œuvres d'art à travers, on pourrait dire, un univers pixelisé qui est celui de l'écran, hein, de la réalité augmentée, ils nous les ont offertes avec de magnifiques copies, évidemment, à l'échelle 1, donc, qui vous permettent de saisir ce qui est absolument l'œuvre d'art, sa matérialité, sa densité, évidemment, son ampleur aussi, ou sa petitesse, hein, puisque le problème, vous le savez bien, de la photographie ou de l'écran, c'est de ne jamais vraiment donner les échelles. Non, ce que je dirais, c'est qu'on s'inscrit dans la continuité, si vous voulez, avec l'âge du musée virtuel. Bon, on est aujourd'hui dans une ère qu'on pourrait appeler l'ère de la facilitation. C'est pas pour rien non plus que c'est une ère de la société civile, parce que je crois que tout ça va ensemble. Que vous diront les puristes? Ils vous diront quelque chose qui est absolument incontestable. L'œuvre d'art est un objet unique en général. L'unicité implique l'authenticité. L'authenticité implique la contemplation dans une relation d'exception de matière à matière, le regard, le corps humain, notre organisme de spectateur, et de l'autre côté, bien sûr, l'œuvre d'art. Donc, les détracteurs du système actuel, de l'extension, on pourrait dire, de la documentation sur les œuvres d'art à partir de la création de formes virtuelles, vous diront ceci, vous diront, il n'y a plus de contact direct avec les œuvres, il n'y a plus d'exercice, on pourrait dire, de l'ordre d'un échange entre l'œuvre d'art et la personne qui la regarde, et il y a évidemment une forme d'égalisation, certes très démocratique, tout le monde peut regarder n'importe quelle œuvre, où qu'il soit dans le monde, avec une tablette numérique, mais évidemment, on n'est pas dans ce rapport-là. Alors, ça, c'est le mauvais côté. Mais il y a aussi les gens qui vont vous dire, mais le surplus d'informations, très souvent, commande qu'on aille en quelque sorte, soit vérifiée, soit que l'on ait le désir d'en savoir plus. Et bien souvent, ce qui se produit, c'est qu'à défaut de pouvoir visiter, par exemple, le Louvre, concrètement, on va d'abord le visiter virtuellement. Et tôt ou tard, ça vous donne l'envie de le visiter réellement. En fait, dans l'ère de la facilitation, on retrouve ce qui est une sorte d'exigence politique aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que tout le monde puisse accéder, en quelque sorte, à la culture le plus aisément possible, indépendamment de ses moyens. Et ça, c'est un argument très fort.
Est-ce que vous comprenez cette phrase qui sort d'une étude qui a été faite par Universcience et le GC ? Les outils numériques concourent à ce que les visiteurs se sentent davantage acteurs de leur visite au musée.
L'idée, c'est, au fond, on retrouve ça dans bien des discours politiques, c'est d'émanciper le spectateur, on pourrait dire, de l'autorité de l'œuvre d'art ou du lieu qui abrite les œuvres d'art. Ceux qui veulent ce nouveau rapport spectatoral à l'œuvre d'art, je ne dis pas qu'ils se trompent, mais je dis simplement que si telle est leur unique volonté, avec un désir de l'imposer, eh bien, à mon avis, c'est une erreur très grave. Je pense qu'il faut laisser chacun s'approprier l'espace des musées. Je dirais, moi, que je suis plutôt partisan de la réalité augmentée pour les musées, d'abord parce que cela accroît la documentation, ça accroît aussi la démocratisation culturelle, quoi qu'on dise, donc c'est une bonne chose. Pourquoi c'est bien ? Je prends un musée formidable, par exemple. L'autre jour, j'allais voir un artiste qui travaille près d'Alençon, et ayant du temps, je suis allé voir le musée de la dentelle d'Alençon. C'est un musée absolument prodigieux, extraordinaire. Eh bien, ce musée n'a pas de possibilité, n'offre pas encore de possibilité de visite virtuelle. Eh bien, c'est très dommage, vous voyez, parce que je pense que là, dans ce cas-là, vous vous dites, on a des trésors cachés et on va aller les voir, parce que c'est extraordinaire.
Le musée 2.0, gadget ou révolution culturelle, c'était un reportage de Christine Siméon, prise de son Yann Frécy, Jean-Pierre Pernel et Michel Gassic, mixage Jean-Louis Deloncle, réalisation Anne Lioro, assistée d'Élise Amchin et Zora Bensmaili. À la semaine prochaine.
Merci à vous Philippe Bardonneau, donc à dimanche prochain sur France Inter.